Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné numéro 6? Dès que vous rajoutez ou retranchez, vous mourrez. Moyenne cause ou rec? Pasteur. Ce soir je lirai au paragraphe 14 du sermon de frère Branham, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné et pour son texte frère Branham lira de Jean 14h14 à Jean 14h26. Maintenant, je souhaite d'abord dire ici que la personne, qui qu'il soit, qui a fait la transcription pour la voix de Dieu de ce sermon, n'a pas fait un très bon travail, parce qu'il a placé tout ceci dans un seul paragraphe. Mais il y a plusieurs pensées que frère Branham développe alors qu'il lit ces versets. Et c'est pour cette raison que ces pensées Néhémie devaient pas être regroupées dans un seul paragraphe. Même dans la lecture de la Bible, Jésus parle de plusieurs pensées et nous Néhémie devons pas la lire comme si nous nous précipitons pour finir de lire un livre mais au contraire, nous devons lire chaque pensée comme des pensées que Dieu nous adresse. Nous devons les lire pensée par pensée et méditer chaque pensée alors que nous la lisons. Sinon nous perdrons le sens de ce que Dieu essaye de nous dire et de nous enseigner à travers les paroles qu'il nous adresse. Je les ai décomposées alors que nous les lisons. Remarquez frère Branham, commence ici en disant, 14 maintenant, vous qui prenez ces passages des Écritures en note, si vous voulez reprendre l'évangile de Jean avec moi, au chapitre 14. Nous voulons commencer au chapitre 14 de Jean. Et commençons vers le verset 14. Jean 14.14. Et lisons juste un bout de ce passage de l'Écriture. Or, là-dedans, vous trouverez une grande partie du contexte dont je veux parler ce soir. Maintenant, remarquez, frère Branham n'a pas dit que vous trouverez tout le contexte, mais il a dit que vous trouverez une grande partie du contexte, et il y a une différence entre les mots tout et une grande partie. Pour emprunter les mots de frère Branham, ce sont deux mots différents et donc elles signifient deux choses différentes. Nous découvrirons plus tard dans ce sermon, alors que nous le lirons, que frère Branham va, en fait, retourner au verset 12 et associera les versets 12 et 13 au reste de ce qu'il lit ici pour son texte du verset 14 au 26. 15 Et souvenez-vous, vous qui avez des Bibles avec les lettres rouges, sester en rouge, ça. Ce sont les paroles dont Jésus lui-même a parlé. Par conséquent, nous pouvons être assurés qu'il en sera exactement comme il l'a dit. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne m'y faillira jamais. Remarquez, frère Branham cite déjà ce que Jésus a dit ici aux gens dans la Bible. Bien qu'il Néhémie nous dit pas quelle écriture, il cite parce que nous trouvons cette citation directe à trois endroits tels que Luc 21h33 et Marc 13h31 et Matthieu 24:35. Et nous trouvons la même pensée indirectement dans Matthieu 5h18 et Luc 16h17 où Jésus dit la même chose mais en utilisant des mots différents, car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre Néhémie passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Maintenant, la Bible dit très clairement que par la bouche de deux ou trois témoins toute chose soit établie. Le fait même que Dieu est placé dans sa sainte parole pas simplement trois mais en fait cinq témoins de cette déclaration, où il nous dit que les cieux et la terre passeront, mais sa parole Néhémie faillira jamais doit nous faire savoir combien cette pensée de Dieu est importante afin que nous la prenons et le respectons. Pour la simple raison qu'au commencement, au premier exode, Dieu nous dit par son porte-parole Moïse, Deutéronome 8, 3 il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu Néhémie connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme Néhémie vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ainsi nous voyons que Moïse nous dit ici que Dieu a humilié le peuple et les a fait souffrir afin qu'ils puissent comprendre que ce que Dieu dit, il le pense, et que l'homme Néhémie peut vivre que par ce que Dieu a dit. Et nous voyons frère Branham nous le dire dans son sermon, le Dieu de cet âge mauvais 65-0801 MP 56-109. Vous mourrez le jour où vous douterez de la vérité d'un seul mot de la parole de Dieu, alors qu'elle aura été confirmée et démontrée devant vous. Ce jour-là, vous vous serez séparés de Dieu. Même pas toute la phrase, un seul mot. Quiconque ajoutera un seul mot ou retranchera un seul mot, ce jour-là vous mourrez. Donc tout ce qu'il faut pour mourir spirituellement, c'est Esther de Néhémie pas croire juste un seul mot, c'est Esther tout. Éphésiens 4:17-18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est Esther que vous Néhémie ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui Esther en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Remarquez, nous apprenons qu'ils se sont coupés de la vie de Dieu, parce que leur intelligence Esther obscurcie. Le mot étranger que nous avons lu ici a été traduit du mot grec apalotriou, qui signifie se couper de la communion et de l'intimité. Maintenant pourquoi ça? Parce que nous trouvons dans 1 Jean 1, 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est Esther lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Maintenant, je crois cette Bible et j'en crois chaque mot. Et si elle dit que vous êtes mutuellement en communion en marchant dans la lumière, alors cela veut dire que si vous commencez à couper la communion avec les autres, c'est que vous avez éteint la lumière. Maintenant, je ne me soucie pas du nombre de bandes que vous prétendez écouter. Quand vous vous éloignez de la communion des saints, vous vous êtes éloigné de la lumière dans laquelle Dieu marche. Et il n'y a rien à faire. Jean a aussi dit, ils sont sortis du milieu de nous pour manifester qu'ils n'aimaient, sont pas des nôtres. Voilà votre vérité biblique. Et frère Branham dit dans, Christ Esther le mystère 63-07-28-84. Et maintenant, vous avez des bandes à ce sujet. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'Église. Comment nous nous comportons dans l'Église de Dieu? Comment nous devons nous réunir ici et nous asseoir ensemble dans les lieux célestes? Néhémie restait pas à la maison. Si Dieu Esther dans votre cœur, vous serez impatient de voir ces portes s'ouvrir là, pour que vous entriez ici afin de communier avec vos frères. Si vous Néhémie, vous n'avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu'il est Esther temps de vous mettre à prier. 85 En effet, nous sommes dans les derniers jours, où la Bible nous a exaltés, nous a exhortés, d'autant plus que nous voyons ce jour-là approcher, à nous aimer les uns les autres d'un amour chrétien et d'un amour divin, à nous rassembler dans les lieux célestes en Christ Jésus, à nous aimer les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Écoutez frères et sœurs, nous apprenons que notre communion vient du fait de marcher dans la lumière. Ainsi, si nous n'y marchons plus dans la lumière, alors nous n'avons plus de communion. C'est Esther aussi simple que ça. Et le mot marcher ici est Esther, le mot pripatéo qui signifie faire son chemin, progresser, ou réguler sa vie par, ou passer sa vie à. Ainsi nous voyons que la parole de Dieu est une lumière vivante dans laquelle nous vivons cette parole. Ce n'est pas seulement quelque chose auquel nous croyons, mais c'est notre vie. Et si c'est notre vie, alors la quitter signifie la mort pour nous. Et le mot communion est si Esther le mot koinonia qui signifie communion, camaraderie, communication, association ou participation commune. Et ainsi nous voyons qu'il faut cette parole de Dieu pour que le christianisme devienne une réalité dans nos vies, et quand ça le devient, ça apporte alors un lien commun. Ce n'est pas simplement le fait de savoir que c'est la vérité. C'est le fait que c'est une réalité pour vous. parce que c'est-à-dire vivant en vous. Savoir juste que c'est-à-dire vrai, peut toujours vous le faire placer dans une perspective historique, comme le font les chrétiens de nom. Mais c'est-à-dire de savoir que c'est-à-dire la vérité, parce que sa vie en vous et que c'est-à-dire est devenue votre vie. Quand vous lisez cette parole, vous pouvez réellement le voir se manifester en vous et tout autour de vous. Parce qu'après tout, le prophète de Dieu a dit, Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Et ainsi quand vous lisez sa parole, et puis vous la voyez s'accomplir en vous et autour de vous, alors vous êtes devenu cette partie de la parole de Dieu pour l'heure, en devenant la réalité de cette parole dans votre vie et votre âme. Rappelez-vous, Dieu a dit par Moïse. Deutéronome 8, 3 Moïse dit au peuple. Il, Dieu, t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne. Que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme Néhémi vit pas de pain seulement. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu vous a-t-il humilié? Dieu vous a-t-il fait souffrir de faim et de soif afin qu'il puisse vous remplir? Si ce n'est pas le cas, vous devez craindre de Néhémie pas être à lui. Et je me mettrai à genoux et tremblerai devant lui jusqu'à ce qu'il vous parle. Et si vous n'avez toujours pas le Saint-Esprit comme preuve d'une vie sainte vivant d'elle-même en vous, alors je tomberai à genoux frères et sœurs, et je Néhémie cesserai pas jusqu'à ce que Dieu me donne son esprit ou me tue. Car pourquoi je voudrais vivre une heure en ce monde où tout le monde devient aliéné? Pourquoi je voudrais vivre dans un monde où la colère de Dieu estère contre lui et fait s'abattre des fléaux et des malédictions? Et le consume? Non. Je préférerais être mort que d'endurer tout cela. Et quand le moment vient où Dieu prendra à la maison seulement ceux qui ont le Saint-Esprit, le reste du monde souhaiterait être mort. Alors ils crieront que les rochers leur tombent dessus. Et dans Luc 4, 4. Remarquez que Jésus cite Moïse, et Jésus lui répondit, disant, il est écrit que l'homme Néhémie vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu d'Arbi, lors du second exode. L'apôtre Paul dit dans Galates 1, 8, mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. 9 Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous avons l'ordre de ne pas y ajouter ni d'en retrancher. Apocalypse 22:17-18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. 19 Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Par conséquent, il nous incombe Néhémie pas dévier de la parole de Dieu venant soit de cette Bible, soit d'un prophète de Dieu confirmé. Car rappelez-vous, c'était un point de la Bible que Martin Luther a reçu, que le reste de l'Église Néhémie pouvait pas recevoir. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire tout ce qui a séparé les pousses de l'Église en son jour-là. Juste un mot. La justification. Et juste un mot a apporté la mort au monde entier par Ève. L'unité 62:02-1:55. Répétez cela, frère Branham. Qu'est-ce sur le royaume de Satan? Toute chose qui est contraire à la parole de Dieu. 56 Eh bien, cela blesse, mais c'est le moment de blesser. Voyez-vous? La branche, l'arbre, s'il doit porter du fruit, il faut qu'il soit émondé. C'est le moment. 57 Tout ce qui est contraire au précepte de Dieu, à la parole de Dieu, n'est pas Dieu. Qu'est-ce que le péché? La justice pervertie. Qu'est-ce que la mort? La vie pervertie. Qu'est-ce que le royaume de Satan? Tout ce qui établit quelque chose pour remplacer la parole. N'importe quoi. N'importe quel enseignement. Une parole. Rien qu'une parole. Il se pourrait que vous croyiez le tout. Eve croyait tout cela. Sauf cette unique parole. Douter de cette seule parole. Cela avait suffi pour elle. Il vous suffit de douter de cette seule parole. Si Dieu Esther avec nous 61-1231-65, beaucoup de gens ont été séduits pour ce qui Esther de recevoir le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, aujourd'hui ils ont des doctrines comme celle des vêtements d'Élie, et toutes ces autres choses, les fils de Dieu manifestés, et tous ces différents ismes, et ainsi de suite, dans le monde aujourd'hui. Les gens tombent aveuglément dessus, et ressentent une sorte de sensation, se relèvent avec un esprit arrogant, indifférent, enflé, colérique. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il continue toujours en dehors de l'ordre. Ils n'émissent pas ce qu'estère l'ordre de l'Église. Ils n'émissent pas comment se comporter dans la maison de Dieu. Pas de manière. Non. Pas du tout d'audace. Pas de sentiment vers Dieu. Tout ce à quoi il pense, c'est Esther, mon Église. Cela montre qu'ils ont reçu l'esprit de l'Église, et non l'esprit de Dieu, car lui ôte tout cela de vous. Il consume cela. Je l'ai vu pendant des années. Nous avons deux extrêmes qui suivent ce message. Nous avons le groupe intellectuel, qui pense que tout repose sur votre capacité de savoir et de comprendre. Et puis nous avons l'autre extrême qui croit que tout repose sur des manifestations, et des phénomènes surnaturels. Comme frère Branham dit le dit si clairement dans Jéhovah Jireh 55-022-2P, 28 l'une des plus grandes malédictions qui pèsent sur l'Église du plein évangile, Esther de Néhémie pas connaître sa position ce qu'ils sont en Christ Jésus. J'ai toujours dit, je rencontre deux classes des personnes. Et l'une est l'Esther le plein évangile, et l'autre Esther le fondamentaliste. Le fondamentaliste, c'est où il se tient côté position. Seulement il n'Esther jamais né de nouveau. Rien que l'enseignement fondamentaliste. Ainsi il n'a pas de foi. Et le plein évangile est né de nouveau mais Néhémie sait pas où il se tient. Ainsi c'est Esther juste. Si jamais j'arrive à unir la foi du plein évangile et les croyants fondamentalistes, ou soit un croyant fondamentaliste, unir la doctrine fondamentaliste à la foi pentecôtiste, nous aurons réussi. C'est Esther comme un homme qui sait remplir un chèque, mais il n'a pas d'argent à la banque. L'autre Néhémie sait pas le remplir, et quand ils savent remplir un chèque, ils n'ont pas d'argent à la banque. L'homme, qui Néhémie sait pas remplir de chèque, a de l'argent, mais Néhémie sait pas remplir le chèque. C'est Esther ainsi. Que va-t-il faire? L'un a de l'argent en banque, mais Néhémie sait pas remplir un chèque. L'autre peut remplir un chèque. Il n'a pas d'argent à la banque. Alors que peut-il faire? Vous devez réunir ces deux classes. Maintenant, écoutez ce qu'il a dit. Il a vu ces deux classes des personnes lors des réunions dans lesquelles il a parlé. Et je pose la question ce soir. Sommes-nous si fiers de penser que l'Église est allée au-delà de ça? Non. Aucunement. Dieu Néhémie change pas et l'homme Néhémie change pas non plus. Frère Branham a dit dans son sermon, pourquoi il fallait que ce soit les bergers 64-1221-23. Il lui était plus facile d'apporter son message à un groupe de gens non instruits, plutôt qu'à un groupe de gens embrouillés, qui étaient si établis dans leur propre voie au point que rien Néhémie pouvait les ramener, même pas la parole de Dieu. 24 et maintenant, amis chrétiens, Permettez-moi de vous poser cette question en toute sincérité et avec amour. Je me demande tout simplement s'il faisait la même chose ce soir, s'il nous envoyait dans cette génération la parole promise, celle qui a été promise pour cette génération. Je me demande si nos théologiens, nos instructeurs, et nos sages ne m'y rejetteraient pas le message exactement comme les autres l'avaient fait en ce temps-là. L'homme ne m'y change pas, la parole de Dieu ne m'y change pas non plus. Il est stère le Dieu immuable, il ne m'y change pas. Ainsi vous pouvez voir l'importance de ce que le prophète nous dit ici. Rejeter juste une parole de Dieu vous fait sortir du livre de vie. Et ajouter à la parole vous met en position de subir la période de tribulation, où vous recevrez les fléaux. Maintenant, nous allons lire à partir du verset 14 du chapitre 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quelle promesse bénie! Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Remarquez, Jésus nous dit ici que notre amour envers Dieu est en fonction du fait que nous recevons et acceptons ses commandements, la parole qu'il nous a donnée. Par conséquent, c'est comme ça que nous exprimons notre amour envers Dieu. C'est parce que nous faisons de sa parole. Parce que si vous aimez vraiment une personne, vous croirez ce qu'elle dit. Et ne m'y douterez pas de ce qu'elle vous dit. Et nous recevons l'Esprit de Dieu en fonction de notre amour pour lui. Et notre amour pour lui est prouvé par ce que nous faisons de sa parole. Remarquez, frère Branham continue de citer Jésus en disant, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » et alors il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il, le Père, vous donnera un autre consolateur, afin qu'il, ce consolateur que Dieu, votre Père vous donnera, demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde n'ait mis peut recevoir, parce qu'il n'ait mis le voit point. » Maintenant, vous qui liriez dans une Bible en grec, vous le verriez ici, pas ici, voire veut dire comprendre. Car le monde n'ait mis le comprend point. C'est tellement vrai. Je vais relire ça. Là, l'esprit de vérité, que le vérité, que le monde n'ait mis peut recevoir, parce qu'il n'ait mis le voit point, n'ait mis le connaît point. Mais vous le connaissez. Qui? En d'autres termes, qui est celui que vous connaissez que le monde n'ait mis connaît pas? Le consolateur, car il demeure avec vous maintenant, au présent. Remarquez, frère Branham dit clairement ici que le Consolateur était présent avec les disciples quand Jésus leur parlait. Pourquoi? Parce que le Consolateur restèrent le même esprit qui habite en Jésus-Christ, et leur parlait. Remarquez, frère Branham dit, le Consolateur, car il demeure avec vous maintenant, au présent. Remarquez, c'est au temps présent. Ce qui nous fait savoir que frère que Branham est en train de nous dire que le Consolateur qui devait venir au Fils de Dieu était celui-là même qui était à ce moment-là présent Jésus-Christ le Fils premier-né de Dieu. Puis frère Branham continue à citer Jésus et dit, « Il demeure avec vous, et il sera en vous. » Qu'est-ce que c'est? Le même Consolateur. Remarquez encore, frère Branham montre que celui qui était avec et dans le Fils de Dieu, c'est le même qui doit revenir sur les fils. Je n'ai mis vous laisserai pas orphelin. Je. Tout le monde sait que je est un pronom personnel. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde n'ai mis me verra plus. Mais vous. Vous me verrez. Rappelez-vous. Frère Branham nous a déjà dit que voir signifie comprendre. Ainsi Jésus dit ici, le monde ne comprend pas, mais vous me comprendrez. Puis il nous donne un indice de la façon dont nous comprendrons. Il nous dit que ce n'est mis sera pas une chose mentale, mais une chose empirique, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. C'est ça qui sera le centre de ma pensée, mais nous allons en lire un peu plus. Je voudrais m'arrêter ici avant que nous n'allions plus loin et juste dire ceci, nous pouvons voir à partir de ce que nous avons lu jusqu'ici que Dieu considère ce que nous faisons de sa parole comme notre preuve envers lui que nous l'aimons. Et je pense que vous pouvez dire que c'est vrai pour n'importe quelle relation humaine. Mari et femme. Si vous vous aimez vraiment, vous n'aimez vous replierez pas égoïstement sur vous-même pour prendre à la légère les paroles de votre conjoint. Il se peut que vous n'aimiez soyez pas d'accord sur certaines questions, mais cela n'aimiez vous donne pas le droit de n'aimiez pas considérer les paroles de l'autre. Tant de fois des maris disent à leur femme, fais ceci parce que je le dis et je suis le chef de cette maison. Mais n'oubliez jamais mes frères, que Christ est votre chef. Et Dieu a parlé par Paul et a dit, Marie aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Et il a également dit, et n'aimez vous aigrissez pas contre elle. Ainsi, il savait que parfois vous n'aimiez serez pas unis dans votre pensée. Et c'est pourquoi il a dit, et n'aimez vous aigrissez pas contre votre femme. Ainsi nous regardons notre union avec Christ. Et il a dit si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Vous garderez ma parole. Maintenant, je sais que nous vivons au temps de la fin, et nous pouvons voir que le niveau de tension est élevé parmi les peuples de la terre, et comme nous l'avons lu la semaine dernière, les mêmes épreuves qui viendront sur tous ceux qui vivent sur la face de la terre viendront également sur vous en tant que croyants. Mais votre fondation est bâtie sur un rocher, qui est la révélation de Jésus-Christ, et le monde n'a pas une telle fondation. Et n'ayant pas une telle fondation, ils sont balayés par les torrents d'inondations, des stress et de pression auxquels nous sommes tous confrontés en cette heure. Nous avons été pleinement avertis dans la Bible de ce que seront les conditions au temps de la fin. Nous avons lu dans 2 Timothée 3, un sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Être conduit 65-1207 Dieu 330. Ô Dieu, fais que je parte, Seigneur. Néhémie me laisse pas derrière, Jésus. Fais que je parte avec toi, Père. Je ne veux pas rester ici sur cette terre, pour regarder cette tribulation qui arrive. Je ne veux pas rester ici, au milieu de cette démence. Je ne veux pas être ici quand on verra ces choses hideuses. Les gens qui perdront la raison. Nous voyons des hommes qui cherchent à agir comme des bêtes et à ressembler à des bêtes. Et les femmes qui cherchent à ressembler à des animaux, avec ces produits de maquillage sur le visage. Nous savons qu'il a été prédit que ces choses arriveraient, que la chose arrivera, qu'ils deviendront tellement fous que des sauterelles apparaîtront avec des cheveux comme ceux des femmes, pour tourmenter les femmes, et des dents comme celles des lions, et les choses que tu as dites, il y aura une détérioration complète des facultés mentales des gens. Nous voyons que ça se prépare en ce moment, Seigneur. Aide-nous. Redonne-nous la pensée sensée de Jésus-Christ, notre Seigneur. 331 Ô grand conducteur de la vie éternelle, nous acceptons tes promesses, ce soir, Père. J'intercède pour ces gens. J'intercède pour chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie que Christ, le Fils de Dieu, vienne dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, et qu'il nous façonne et fasse de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur Dieu. 332 Nous t'aimons. Et nous voulons que notre tempérament, qu'un changement intervienne en nous, pour que nous puissions être tes enfants et sentir ton esprit agir dans nos cœurs. Seigneur, nous attendrir et nous amener à reconnaître dans quel âge de démence nous vivons. Accorde-le, odieux. Quand nous voyons des jeunes femmes tellement prises dans la toile du diable, des jeunes hommes avec un esprit perverti, des enfants toxicomanes, ils fument la cigarette, ils boivent, ils sont immoraux, l'Éden de Satan. 333 Oh Dieu, il t'a fallu 6000 ans, selon la Bible, pour construire un Éden. Et tu y as placé ton fils et sa femme, son épouse, afin qu'il règne sur celui-ci. Et Satan est intervenu et l'a perverti. Il a eu 6000 ans et il a construit son propre Éden intellectuel, au moyen de la science, de l'instruction et d'une soi-disant intelligence. Et il en a fait un gâchis. C'est à la mort. 334 Oh Dieu, ramène-nous en Éden, Seigneur, là où il n'y a pas de mort, là où il n'y a pas de chagrin. Accorde-le, Seigneur. Nous sommes là, humblement, nous attendons que le second Adam vienne chercher son épouse. Fais de nous une partie de lui, Père. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, mai 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.